Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bonjour, bienvenue à votre émission Le Mans en chaussures. Aujourd'hui, nous avons un invité un peu spécial, un invité inanimé, un invité qui est rangé dans un placard, souhaitant être visité. Nous allons parler aujourd'hui des cahiers des danses. Bonjour Alice, je suis accompagnée d'Alice.
Bonjour, alors l'invité du jour, c'est donc le cahier de danse. C'est une revue sur la danse publiée par le Centre de développement chorégraphique national de la briqueterie. Donc la rédactrice en chef étant Céline Gauthier. Et c'est une revue de danse qui explore beaucoup de sujets concernant le monde du mouvement.
Du mouvement, donc c'est un espace d'analyse pour les danseurs. Et le numéro qu'on va explorer, c'est le numéro 1. Quel est le thème de notre numéro?
C'est le jeu et la danse.
Donc c'est un entretien à Dane Anguyen par Céline Gauthier. Et ça ouvre avec la notion du hip-hop à l'intérieur des Olympiques. Et ça nous raconte aussi que le hip-hop n'a pas eu de naissance à New York, comme on peut le croire, mais c'est juste une continuité d'héritage afro-américain. Et ça, je ne le savais pas, je jamais imaginé que ça venait de Noir, quoi. C'est incroyable.
Et oui, si, ça prend racine dans la culture afro-américaine et même africaine, si on veut aller plus loin. Mais il est vrai que le moment où il y a eu l'essor du hip-hop, c'était en effet à New York.
Il partage son vocabulaire avec la trance, non? Avec le sol. Il y a quelque chose de toujours appuyé sur le sol, très proche du sol. Le corps est absolument imbibé de cette surface qui nous fait à tous un support.
Oui. On le voit notamment dans les ouvrages de Catherine Denham sur les danses caribéennes, où là, il y avait tout le développement de la transe. Et donc ça, c'est un lien avec ce qui était aussi développé dans les rituels africains, dont s'inspire la danse hip-hop par la suite, avec beaucoup d'autres influences, bien sûr.
Oui, il y a une... Le corps est disposé quand même, il y a beaucoup de contradictions, non, parce qu'on dirait que le corps est relâché, mais les mouvements sont très saccadés. Les mouvements sont souvent à une vitesse très importante, non? Et...
Oui, alors ça dépend, c'est souvent en lien avec la musique, de toute manière. Ce qui est le propre aussi de la danse jazz d'ailleurs, et le hip-hop découlant aussi de la danse jazz. Les deux découlant de la culture afro-américaine. On a du coup toutes sortes de nuances qui sont paradoxales, mais qui font le propre de ces danses.
Cette singularité, ouais, ça vient des spirituels, du negro spirituals et de la soul, de la gospel. C'est vraiment, j'ai jamais pensé cette relation-là, cette ligne. Donc ça se passe en battles. Qu'est-ce que c'est les battles?
Alors les battles, c'est des cercles formés par les danseurs et les badauds qui se promènent autour, où viennent s'affronter deux danseurs au centre du cercle.
Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est quelque
chose. Alors il y a souvent si.
Ah c'est?
Si, il y a souvent gagnant et perdant. Alors. Je pense que ça dépend lesquels. Quand c'est dans le cadre d'un concours, en tout cas, il y a un gagnant et un perdant. Après, quand c'est dans le cadre récréatif, je pense que... Moi, j'en ai jamais fait, personnellement. Donc,
moi non plus.
Je ne sais pas. Mais dans le cadre récréatif, je pense que ça peut être juste un moment d'expression où on vient au milieu Et ou peut-être on n'est même pas face à quelqu'un, mais qu'on est juste là pour montrer ses skills, comme on dit.
dans l'article, ça, il parlait d'une sorte de fonction de ces hip-hop où les danseurs essayaient de délimiter leur espace physique, parce que parfois ça se passe au niveau des quartiers. Donc ils vont réaffirmer leur identité à travers leur pratique. Et ça montre qu'ils sont dans tel territoire et pas de l'autre. Et que ça délimite aussi des frontières invisibles dans la ville.
Ah, tu veux dire que c'était aussi en lien avec les guerres de gangs, ce genre de choses ?
Je pense qu'il y a une relation, oui. C'est une construction de l'identité sociale. C'est quelque chose de très collectif. C'est ça qui est intéressant, cette pratique du hip-hop.
Bah, je pense que vu que... Bah, étant donné que ça a grandi dans des quartiers comme Harlem, comme Brooklyn, etc., qui étaient des quartiers populaires où il y avait pas mal de sévices au niveau de la drogue, de gangs, etc. Je pense que de la même manière que le hip-hop, l'art musical, a pu à la fois extérioriser un peu cette rage, et en même temps ça a pu servir aussi peut-être des fois des gangs. Enfin, on voit à la période du hip-hop Notorious B.I.G., je sais pas si ça te parle,
non, pas du tout,
de Tupac, etc., qui a eu aussi des fois des combats armés alors qu'ils étaient en train de se produire musicalement, de faire des albums, etc. Donc je pense que la danse, c'était le cas aussi. Mm-hmm. Mais on retient jamais autant les danseurs que les musiciens.
Je viens de me rendre compte, mes chers auditeurs, que j'ai oublié d'introduire pourquoi nous sommes en train de parler de ça. Et j'ai rencontré récemment Géraldine, qui travaille au centre chorégraphique ici de Montpellier, d'Occitanie, dirigé par Christian Rizzo. Et j'ai eu l'idée de vous faire découvrir les catalogues. Donc je suis rentré et il m'a proposé des matériaux. Et celui-ci, on fait partie des trois matériaux qu'elle m'a proposé au début. Et vous pouvez la contacter au 04 67 60 06 70. Il faut absolument prendre rendez-vous et c'est des consultations uniquement sur place. Donc c'est une salle très très... très cher pour moi, parce que j'ai trouvé pas mal des informations là-bas. Et j'ai
cher souvenir. Dans le bon sens du terme. Ah. Pas coûteux. Cher.
Cher, oui, de intime.
Richesse. De, oui, richesse, okay. Voilà.
Ok. Petite parenthèse et on revient. Et donc, on est en train de parler de ça, de cette affirmation de l'identité et de comment aussi. La configuration de la danse, parce qu'il y a les spectateurs n'a pas vraiment une place, il est juste autour, il contourne le spectacle.
Dans la danse hip-hop, tu parles, voilà, toujours, oui.
C'est ça, donc c'est un diagramme très différent de ce qu'on voit par exemple dans un théâtre ou dans une scène où il y a une frontalité.
Oui, parce que ça se passe dans la rue à l'origine.
Et donc ce qui est intéressant là, c'est le regard. Souvent, les danseurs que j'ai vus, ce que je peux en témoigner, ils sont toujours très concentrés sur eux. Le regard est toujours un peu par terre, c'est-à-dire il est renfermé. Et donc, quand on appelle les hip-hop aux Olympiques, bah, les danseurs ils commencent à s'entraîner devant un miroir. Et ça, ça change absolument tout le caractère de la nature de ce type de mouvement.
Oui.
Parce que ce n'est plus introspectif, ça devient quelque chose de spectaculaire qui cherche à s'extérioriser, à créer un contact avec la caméra, avec le spectateur.
Oui, je pense que ça fait déjà un moment que le hip-hop est de plus en plus... Et il est sorti de la rue. On le voit au cinéma, on le voit dans des compagnies contemporaines qui vont s'inspirer énormément du hip-hop, voire comme Mourad Merzouki, etc. Donc le hip-hop tend à devenir une danse plus autant combative, si ça l'est toujours, mais plus autant combative que juste dans le cadre d'une battle, ou que dans le cadre d'une performance de rue. Donc, en effet, l'importance du regard qui vient chercher le spectateur, c'est pas la même chose que ce qu'on voyait avant.
C'est une pratique qui est appréciée, bon, c'est un peu contraire à ce que tu viens de dire, elle est appréciée pour son aspect non violent. C'est, dans beaucoup de cas, j'ai rencontré une compagnie de danse à Bogota et ils étaient infatigables. Nous, on était au rez-de-chaussée, ils étaient à l'étage et ils dansaient tout le temps. Ils faisaient ça tout le temps. C'était comme pour eux, c'était comme pour respirer. C'était une obsession, c'était vraiment quelque chose de d'exacerbé.
Ouais.
Il transpirait, il continuait à danser, sachant qu'on était censé participer à un festival. Ouais. Il fallait se reposer, et eux, ils ne se reposaient pas. Ils étaient toujours en train d'éprouver des mouvements, de tester. Donc c'est une énergie extrêmement différente à ce que moi je perçois la danse, par exemple, dans ma pratique.
Oui, il y a plein de manières d'envisager la danse. Après, très souvent, à haut niveau, quelle que soit la discipline classique, contemporain ou hip-hop, ça reste très sportif. Et c'est d'ailleurs ce que tu commençais à dire, ou ce dont on discutait tout à l'heure, que le hip-hop, en plus, a sa place maintenant au JO. Donc, c'est quelque chose qui fait transpirer, qui est à considérer de la même manière qu'un sportif de haut niveau qui ferait de l'athlétisme ou...
Avec ces goûts de sueur, on va faire une toute petite pause musicale, une petite surprise que je vais vous amener aujourd'hui. De votre compagnie, de votre confiance. Nous revenons avec le cahier des danses numéro 1 qui traite sur les jeux. Et il y a un rôle très important que c'est les speakers. C'est quoi les speakers, Alice ?
Le speaker, c'est dans les battles hip-hop, mm-hmm. donc, ou dans toutes sortes de compétitions, ça, c'est souvent format battle. Donc c'est le monsieur ou la dame qui va annoncer les participants, qui va aussi être là pour mettre l'ambiance, parce que c'est une ambiance particulière, on n'est pas dans un théâtre, on n'est pas... Et il faut qu'il y ait des... Ça, c'est ce qui anime... C'est ce qui fait le show hip-hop, en fait, c'est que le public doit être motivé, doit crier, doit encourager les danseurs. Et donc, le speaker, il est un peu chauffeur de salle, en fait. Et en plus, il joue le rôle d'animateur entre chaque partie.
Et c'est une personne qui a une connaissance très approfondie de chaque danseur, leur nom, leur vocabulaire aussi, leurs gestes. Et parce que c'est tout un défi de décrire le corps en mouvement. Et oui. Il y a un codage, j'imagine. Non, il y a quand même un vocabulaire très extensible.
Oui, je pense que souvent, c'est des connaisseurs de hip-hop, peut-être des anciens danseurs ou au moins des gens qui évoluent dans le milieu hip-hop en général.
Dans les numéros que nous sommes en train d'explorer, il y a pas mal de diagrammes. C'est des diagrammes qui ont attiré mon attention. C'est une sorte d'œil avec les sourcils. Et donc, ça parle de mass choreography.
Mass choreography.
C'était... Tu connais ? Tu avais vu ?
Tu m'en as un peu parlé tout à l'heure, quand même.
Parce que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire, si, on a tous vu ça dans les films ou dans la rue. Et donc, la mass choreographie, je ne la connaissais pas du tout. C'est une pratique, c'est une discipline dévouée à la production des danses en groupe. Et donc, ça s'utilise dans des cérémonies ou dans des événements. Et donc, chaque personne est dessinée comme un cercle avec un numéro. C'est numéroté. Et donc, ces cercles vont faire tous les diagrammes. Et donc, chaque personne va être obligée de se déplacer à un temps imparti et avec des coordonnées précises. Ce qui fait qu'à la fin, tu vas avoir une vue d'en haut avec plein de mouvements qui est complètement coordonné, qui va constituer une sorte de diagramme, le diagramme qui est dessiné sur la feuille.
Voilà, donc, ça, c'est ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est une prise de vue... qui doit se faire en hauteur. Là, le spectateur qui est visé, c'est pas le spectateur qui regarde de face, parce qu'on n'a pas du tout la même vision d'un œil formé au sol par des êtres humains, si on le regarde de face ou si on le regarde en hauteur. Donc souvent, je pense que c'est pour des passages télévisés ou pour des vidéos filmées comment ça s'appelle, les GoPro, les drones.
Les drones.
Donc,
et c'est ça justement qui est intéressant, c'est que c'est un œil, non, c'est le regard. Donc, c'est moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ça, c'est ces déplacements dans les formats. Non, quand on est dans une salle de théâtre, on le disait tout à l'heure, quand on est au centre d'un cercle avec un public autour, et ça change absolument toute la disposition du corps. Le corps est dans une dynamique très très différente quand on est observé, des derrière, par exemple, ça altère toute notre perception et la manière comment on réagit, comment on se comporte.
Oui, et puis là, du coup, tu nous parles de chorégraphie, si je ne m'abuse, qui sont en rapport avec... Enfin, c'est des sortes de flash mobs, c'est ça? Donc,
ça, c'est une autre style. Oui, j'imagine que c'est une catégorie à part, non? Qui consiste...
Oui. Souvent c'est des chorégraphies qui sont faites pour des événements où le but n'est pas forcément d'être technique, on n'est même pas obligé d'être danseur. Par contre, il faut savoir exactement quelle est sa place et où est-ce qu'on va pour que l'effet visuel soit rendu et que le spectateur ou le téléspectateur puisse voir cette forme qui se crée avec tous les êtres humains qui sont positionnés pile au bon endroit.
C'est un repère orthonormé, un terme très technique, mais c'est ça, c'est le shape, c'est cet diagramme dont on parle. Quelque chose de un peu inconfortable, c'est que ça a été utilisé pour les nazis. C'était une forme de montrer leur pouvoir, démontrer une consolidation d'une certaine idéologie. Et ça a été utilisé dans les temps de Nassie, dans les amphithéâtres. C'est une vision platonicienne d'un art militant au service du politique, est une conception aristotélicienne du corps. Ça sent un peu compliqué, mais c'est juste que c'est le corps est vu comme un organe complet, non ? Avec tous ses sens. C'est ça la je ne vais pas faire de la philosophie, mais c'est ça la conception aristotélicienne, c'est le corps qui est un seul organe complet qui peut avoir une organicité. Voilà, c'est ça. C'est okay. Ce organe de...
Oui, et puis le lien que je peux en faire avec les nazis ou les militaires en général, c'est qu'il y a une discipline, c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun doit être à sa place exactement en même temps. Et ça, c'est déjà le cas dans la danse. Hein, on demande souvent à ce qu'il y ait une parfaite synchronicité de tout le monde en même temps. Mais là, on va demander ça à une masse d'individus qui est bien plus nombreuse. Donc c'est pour ça qu'on peut demander ça à tout un régiment d'hommes allant à la guerre, de marcher au pas, chacun jambe droite, jambe gauche, etc. Que ce soit juste pour une marche ou pour des choses plus travaillées. Et c'est ce qu'on voit du coup dans ce que tu décrivais.
Mmh. Et donc on a vu aussi qu'en 1936, Mary Wigman avait proposé, c'était la chorégraphe qui proposait les Jeux Olympiques à Berlin. C'est voilà la raison pour laquelle on avait parlé de Mary Wigman, parce qu'en 1936, elle propose cette activité. Et donc Mary Wigman, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle rêvait d'avoir un théâtre du peuple germanique, héritier de la Grèce antique. Donc c'était une sorte de récupération de tout cet héritage, façon de bouger. Qu'on a tous dans l'imaginaire de comment danser en Grèce. Elle utilisait des robes très légères et des moments très aérés, très soft.
Oui, donc rien à voir avec...
qui n'a rien à voir avec la rigidité des quatre points du ballet, cette volonté de se surélever, non ? Parce que c'est une autre conception. Ces numéros parlent aussi c'est un numéro sous les jeux. Donc quand on dit jeu, on dit contrainte. Quand on dit jeu, on dit on dit plein de choses.
Règle du jeu.
Règle du jeu. On peut parler aussi d'une certaine obéissance aussi, non ? Quand tu dois obéir à une règle. Et que pour moi, dans les jeux, il y a beaucoup de choses. À l'intérieur des jeux, il y a une certaine liberté, mais une liberté avec toutes ces règles qui composent le jeu, par exemple. On peut lire dans les numéros qu'il y a un jeu où il y a des personnes qui doivent penser à une sensation ou un mot, par exemple. Et les autres, ils sont proposés d'essayer d'imiter pour deviner le mot. Et donc, ça faisait comme un catalogue, en fait, non ? Comme si le corps était conçu comme un ordinateur. Mmh. Et que... on avait la capacité d'enregistrer des gestes comme ça, de façon... listé, comme si c'était un abécédaire, non ? Comme si le corps pourrait être considéré et lu d'une façon comme... Voilà.
Ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouve que pour rebondir sur ce que tu disais concernant les règles qui peuvent enfermer, moi, je trouve que justement, ça peut permettre d'aller chercher... c'est comme un enfant qui a besoin de cadre. Et le fait de faire des petits jeux comme celui dont tu parles dans les cours de danse avec les enfants ou avec les adolescents, même avec les adultes, ça peut être intéressant pour justement aller chercher dans l'imaginaire, mais pas juste dire à quelqu'un vas-y, danse. Parce que juste danse, ok, mais comment ? Enfin, juste je dois créer de la danse là tout de suite, mais est-ce que ça va plaire ? Là, il y a plein de questionnements qui se posent. Alors que si on amène ça de manière. Entre guillemets ludique, même si c'est un travail sérieux, mais qu'on va donner des contraintes, et c'est là que ça va permettre aussi l'épanouissement, parce qu'on va, s'appuyer sur certaines choses, on va se dire, ok, là je dois aller chercher du poids, tout en devant, je sais pas, amener des sauts. Par exemple, comment je vais amener ça ? Et ça amène une autre manière de bouger que si on s'était juste dit, je vais danser.
C'est une complexité dans l'apprentissage, non ? C'est une sorte de...
C'est une manière d'orienter l'élève et de l'amener vers quelque chose sans lui imposer. Enfin, on lui impose, mais sans lui dire maintenant tu vas sauter et tu vas faire ça. Non, on va lui suggérer, en fait.
Lui suggérer de... Ok, ouais, c'est une séduction.
Si on veut, c'est la manipulation positive.
Et la danse dans tout ça, dans les jeux, elle est où la danse?
Ah, c'est...
Parce que c'est pas pareil quand on... Bah, quand tu nous proposes une instruction, une contrainte, à quand on peut bouger librement. C'est pas du tout... Je ne peux m'imaginer que c'est pas du tout la même utilisation des nerfs, par exemple.
Alors, moi, je pense qu'on peut bouger librement, même avec des contraintes. Mais... par rapport à ce que tu disais, le jeu, la danse, c'est vrai que... Est-ce que ta question, c'était comment ne pas différencier... Enfin, comment différencier le jeu de la danse?
C'est vrai que c'est un peu inutile, mais si.
Si, si, non, c'est pas inutile, parce que c'est vrai que quand moi, je passais mon diplôme d'État, on nous disait, avec les enfants, de faire attention, de pas les amener juste à jouer... ce que moi, par exemple, j'avais tendance à faire, vu que j'avais été animatrice BAFA avant, il ne faut pas juste amener les enfants à... Allez, maintenant, on va faire les papillons, parce que sinon, c'est la récréation. Et ce n'est pas la même chose que de leur proposer de découvrir une discipline. Si je disais que, par exemple, avec le piano, si on veut taper sur un piano autant qu'on veut, on ne joue pas pour autant du piano. Donc, ce n'est pas parce qu'on bouge partout, n'importe comment, qu'on fait de la danse. C'est l'intention qu'on y met, en fait, qui crée la différence, selon moi.
Oui, selon notre experte accompagnatrice, Alice. Oui, c'est tout un... Moi, je suis un grand joueur de jeux de société. J'aime beaucoup ce qui se passe autour d'une table, par exemple, quand on est en train de jouer, qu'il y a plein de pièces sur la table, et que... on est assis, mais le corps est complètement... pour moi, ça, c'est la grande liberté. C'est là où le corps est vraiment complètement acteur de soi.
Mm-hmm.
Parce que le corps au travail, c'est une toute autre chose. Le corps est absolument contraint de faire certains mouvements.
Oui.
Et,
alors que, par exemple, tu vois, on pourrait faire un spectacle sur le travail avec justement des mouvements de travail. Mais si on y mettait l'intention que ça soit de la danse... Ça ne serait pas du tout la même chose que juste une journée de travail classique.
Donc nous voyons ces différentes utilisations du corps. Aujourd'hui, c'était les jeux qui nous plaît tant. Avec ces numéros qui nous a permis de voir que le hip-hop était considéré maintenant comme une discipline à l'intérieur des Jeux olympiques. Chose qui trouble, qui définit sa propre nature, sa définition, ce type de pratique, mais qui l'a transformé, qui l'a... Et donne une continuité, et justement, si c'est fait pour ça, c'est pour donner une sorte de colonne vertébrale à ces pratiques qui sont importantes, qui se passent au début, dans la spontanéité, mais qu'après, la société joue un rôle à des protections de ce type d'activités qui sont extrêmement importantes, qui font partie de notre patrimoine et corporel. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous laisse en compagnie de la musique, des divergences et de cet esprit mon pèlerin dansant si agréable et si charmant. Au revoir.
Au revoir.
Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and table down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!